avec nous aujourd'hui. Non? Ça va faire énormément plaisir de donner la bienvenue pour la première fois, la toute première fois, puis j'espère pas la dernière, à Zachary Mercier du journal Le Droit, évidemment qui va couvrir les séquilles. Lui qui couvre les sénateurs d'Ottawa, c'est un journaliste sportif. Zach, comment vas-tu?
Ça va super bien, toi, Tony?
Ça va très, très bien, merci. Wow, quelle victoire des sénateurs. Cette équipe-là, ils n'ont pas juste gagné le match hier, puis pas juste gagné le match avant ça. Je parle des deux matchs qui ont suivi la date limite des transactions, évidemment. Mais, tu sais, on voit une équipe tellement contente. On voit une équipe qui sont en train de croire en eux, hein?
Oui, exactement. Puis écoute, on l'a vu avec un Brady Tkachuk inspiré. Après avoir vu son meilleur ami en Josh Norris a été changé, il répond le lendemain avec une performance de 2 buts, dont le but de la victoire. On l'a vu dans son entrevue d'après-match. Écoute, il était sans mots, là, vraiment. Là, on a rarement vu Brady Tkachuk aussi émotif. Puis hier, c'était au tour de Linus Ullmark d'avoir un peu le même genre de réaction où est-ce qu'il se faisait aller. Là, quand il a fait son tour d'honneur pour la première étoile, là, vraiment, là, la foule était en délire. Puis on sent qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe à Ottawa, puis ça fait du bien, parce que ça fait quand même longtemps là, que les sénateurs n'ont pas été aussi près des séries éliminatoires. Ça remonte quand même en 2017, là, la dernière participation. Donc vraiment, là, présentement, on sent qu'il y a un petit buzz alentour de cette équipe-là, puis alentour de la ville d'Ottawa, puis de Gatineau.
Oui, les sénateurs d'Ottawa qui ont 71 points sont dans la première place du poste du wild card. 70 pour les Blue Jackets, les Rangers, le Canadien, les Red Wings, les Bruins, les Islanders avec 68, 66, 66, 66, 65. Donc les sénateurs sont maintenant à 5 points des Canadiens. C'est quelque chose, là. La performance d'Ullmark hier, là, j'ai arrêté de regarder. Me semble à un moment donné, là, c'était 45, 46, quelque chose. Hey, quelle performance de lui! Est-ce que c'est la meilleure performance que tu as vue de Ullmark cette saison?
Ah oui, certainement de loin. Là, vraiment, il a dû se lever parce qu'il y avait eu des bonnes performances, surtout au mois de décembre. Mais depuis ce temps-là, ça avait été un peu plus difficile, un peu plus brouillon. Mais vraiment, hier a été incroyable, là, sincèrement. Peut-être que le seul but qu'il a accordé aimerait le revoir. Là, peut-être un tir un peu qui lui a glissé sous le bras, mais quand même a été incroyable. Puis vraiment, on sent qu'il est là. On sent que l'énergie, le momentum de cette équipe-là, c'est transmis au gardien de but. Puis il était dû pour une grosse performance. Il l'a livré dans un moment assez incroyable parce que, écoute, présentement, là, c'est sur tous des matchs de 4 points ou presque cette semaine. On avait les Rangers, les Red Wings et là, jeudi, les Bruins. Donc, vraiment, là, c'est pas mal. C'est une grosse semaine pour ces 3 matchs-là à domicile. Vraiment, Linus Ullmark qui a volé le spectacle, volé la rencontre, volé un gros 2 points pour les sénateurs.
Dans la dernière semaine, on a beaucoup parlé de Dylan Cousins, qui évidemment a été acquis par les sénateurs d'Ottawa. En retour, c'est Josh Norris qui se joint au Sabre. Parle-moi de cette transaction-là dès le moment que tu as entendu que la transaction a été faite. T'as pensé quoi exactement?
Ouais, ben écoute, j'étais directement au centre d'entraînement des sénateurs. Les gars étaient sur la patinoire, ont tous quitté pendant quelques secondes avant de rembarquer. Par la suite, on a compris qu'ils étaient allés dire un dernier au revoir à Jacob Bernard-Docker et à Josh Norris. On est allés les saluer une dernière fois. Donc vraiment, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait le vendredi. Peut-être que certains, on se disait, ça va être tranquille. Les sénateurs n'avaient aucune marge de manœuvre sur le plafond et n'ont pratiquement aucune munition. Outre le choix de première ronde et Carter Yastrzemski, pas grand-chose qui a une énorme valeur aux yeux des autres formations de la Ligue nationale de hockey. Donc vraiment, ça a été un coup de génie. Je ne m'attendais pas à ce que, justement Steve Steos puisse recevoir un choix de deuxième ronde en plus de Dylan Cousins, qui est 2 ans plus jeune avec un contrat plus avantageux. Donc, c'est quand même un certain coup de maître, là, puisque présentement, écoute, on ne peut pas se plaindre les partisans des sénateurs, comme quoi ils jouent du très bon hockey lors de ces 2 premières rencontres. Puis par la suite, ben, écoute, il est allé utiliser un autre choix de deuxième ronde pour aller faire une autre acquisition importante qui a un gros rôle hier. Donc, présentement, là, si je dois lever mon chapeau à Steve Steos qui a fait de l'excellent boulot puis qui est allé chercher un peu patcher les trous qu'on avait besoin chez les sénateurs d'Ottawa. Puis présentement, c'est une formation qui fait peur. Là.
Zachary, moi, j'ai beaucoup aimé cette transaction-là pour les sénateurs dès le moment que j'ai entendu que ça a été annoncé. Mais il y en a certains qui étaient sceptiques parce que Josh Norris a vraiment un beau potentiel. Malheureusement, pour lui, il n'est pas très souvent en santé, mais quand il l'est, il nous montre vraiment des belles habilités. Selon toi, si on regarde le plafond des 2 joueurs, le plafond est plus élevé pour qui? Norris ou Cousins?
Moi, je pencherais probablement plus du côté de Cousins. À ce point-ci de la carrière, 2 ans plus jeune, a démontré tellement de belles choses, surtout à Buffalo. Quand même une saison de 68 points, là, Dylan Cousins, il y a 2 ans. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a déjà démontré. Josh Norris ne l'a pas encore fait. Oui, il possède un beau potentiel, mais je pense que le package complet va du côté de Cousins. Mais ça pourrait être une transaction un peu à la Nick Jensen puis Jacob Chychrun, où est-ce que les deux formations y gagnent, puis les deux joueurs dans leur nouvelle équipe, dans leur nouveau rôle, connaissent du succès. On l'a vu hier, Josh Norris a déjà récolté un premier points sur un début de Tage Thompson. Donc, ça pourrait être une transaction qui finit par être bénéfique pour les deux joueurs dans ce scénario-là.
OK. Cousins, maintenant, j'ai donné des statistiques, les 2 matchs qu'il a joués. Parle-moi de son impact avec les Sénateurs d'Ottawa dans les dernières 2 matchs.
Énorme. Énorme, ça a changé vraiment le visage un peu de cette équipe-là, ça a changé la dynamique, apporte une polyvalence là au centre du deuxième trio présentement, connaît déjà très bien Drake Batherson, on l'a mentionné lorsqu'il a été acquis. Drake Batherson, ça a été un des premiers à s'adresser aux médias, où est-ce qu'il était tellement content, parce qu'ils ont développé une complicité au championnat du monde en 2022, championnat du monde senior après la saison, puis ben depuis ce jour-là, on crée une belle relation d'amitié, il était très proche, il dit même avant que Batherson ait la chance de débarquer de la patinoire de l'entraînement, il avait déjà reçu des textos de Dylan Cousins pour lui dire qu'il était tellement content de s'en venir à Ottawa. Ils sont réunis sur le même trio avec David Perron. Puis présentement, écoute, c'est un trio qui fonctionne à plein régime. Puis il apporte un côté physique qu'on n'avait peut-être pas vu. Il nous l'a mentionné après son premier match, qu'il voulait apporter cet aspect-là, qu'il s'était peut-être perdu au cours des dernières années à Buffalo. Mais vraiment, on le voit, il protège bien la rondelle, patine comme le vent, sincèrement, avec un bon physique. Contribue aussi en avantage numérique comme en désavantage numérique, qui est utilisé par Travis Green dans les deux aspects. Donc, vraiment, présentement, là, il fait sourire assurément son directeur général, qui passe pour un génie, en tout cas, après 2 rencontres.
J'aime bien aussi le comportement de Brady Tkachuk, parce qu'on l'a vu très émotionnel avec le départ de Josh Norris. Évidemment, les deux étaient vraiment proches, des meilleurs chums, mais tu sais, il a accepté, il a dit « OK, ça fait partie du business ». Et Brady Tkachuk joue du gros hockey depuis cet échange-là aussi. Lui qui est évidemment dévasté.
Ouais, il était pratiquement en larmes. Là. J'étais directement à côté de lui, puis toutes les un peu dans la salle, dans le vestiaire, on était tout comme, écoute, est-ce qu'il va craquer? Finalement, réussi à contenir ses larmes, mais on sentait vraiment que c'était très émotif. Ils jouent quand même ensemble depuis ça fait pratiquement 10 ans là, qu'ils n'ont pas été séparés, qu'ils ont joué ensemble au niveau du programme de développement américain avant de poursuivre leur carrière chez les pros. Donc vraiment, c'est une relation très spéciale qu'ils avaient les deux. Mais écoute, business is business, comme on dit. Steve Steos n'a pas pu pencher dans la balance en disant ben je peux pas échanger le meilleur ami de mon capitaine, si je puis j'ai une opportunité d'améliorer mon équipe, je dois le faire, puis c'est ce qu'il a fait. Puis présentement, je pense que Brady Tkachuk est le premier qui est content parce que il veut participer aux séries éliminatoires. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent il veut quitter Ottawa, il est pas oui. heureux ici. Présentement là, il y a pas beaucoup d'arguments de vouloir quitter avec l'équipe qu'il y a présentement, avec les performances qu'on a là.
Mais moi je pense que Brady Tkachuk va finir sa carrière aux États-Unis. Quand ça va être, je le sais pas, mais quand même. On va voir, puis je souhaite rester à Ottawa parce que il joue très bien son rôle avec les Sénateurs d'Ottawa, évidemment, mais tu sais, n'importe qui aimerait avoir un joueur comme Brady Tkachuk, faut être honnête, sauf le Canadien lors du repêchage. En conversation avec mon ami Zach Mercier, ici du journal Le Droit, il y a un commentaire sur le YouTube Live de Sam Genet qui dit « Cousins n'a pas été utilisé beaucoup à 5 contre 5 hier, le deuxième moins de temps de glace de toute l'équipe. » Puis Sam trouve que Cousins avait l'air un peu perdu sa glace, puis il frappait comme un poule sans tête. Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire-là?
Ben, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il va devoir s'adapter, là. Il est arrivé vendredi soir à 9h, 10h le soir, pas eu la chance de s'entraîner, d'embarquer sur la patinoire pour le match à 12h30, avait jamais eu aucune minute d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, jouait un peu sur l'adrénaline, a eu simplement un entraînement matinal pour se faire un peu connaître avec un peu ses coéquipiers, un semi-entraînement optionnel en plus, après ça, un entraînement matinal. Donc, ça fait seulement quelques jours qu'il est ici. Donc, il doit s'adapter à un nouveau système de jeu, une nouvelle façon de faire. Mais je pense que c'est seulement temporaire à ce niveau-là. Puis, il va continuer de contribuer, même si son temps de glace a été réduit, a eu un très gros impact dans le match d'hier. Donc, vraiment, je pense qu'il peut apporter d'autres choses. Est-ce qu'il va avoir besoin d'une courte période d'adaptation? Assurément, c'est quand même une nouvelle formation, une nouvelle équipe, nouveau coéquipier. Donc, je pense que c'est simplement normal.
Zach, est-ce que tu penses que les Sénateurs vont faire des séries cette saison?
J'ai des très bons espoirs. Je pense que la façon que l'équipe est bâtie, que ils ont tous les éléments pour y arriver, Je pense que ça va dépendre aussi des niveaux des blessures. Les Sénateurs n'ont pas beaucoup de profondeur. C'est pas le genre d'équipe qui peut se permettre de perdre un ou deux joueurs sur des longues périodes. Donc, si tout le monde reste en santé, présentement, tout le monde joue en confiance. On joue un style de match de série. On applique beaucoup de pression, beaucoup de mise en échec. On protège bien la rondelle. Donc, je pense que présentement, là, on a vraiment, Travis Green a réussi à mettre son étampe sur cette formation-là. Puis présentement, tous les espoirs sont permis. Puis je pense que ça va simplement continuer de se transporter. Le Centre Canadian Tire explose à chaque soir. C'est des sales combes. On n'est plus à l'époque où est-ce que le Centre Canadian Tire était rempli à moitié, même dehors lorsque les Sénateurs avaient certaines bonnes équipes. Présentement, les matchs sont à guichet fermé soir après soir. Donc, on sent qu'il y a une énergie, puis c'est contagieux du côté des joueurs. Donc, je pense qu'avec le calendrier, qu'ils ont probablement le calendrier le plus facile d'ici la fin de la saison du côté des Sénateurs, ils devraient être en mesure. En tout cas, la balle est dans le cadre des joueurs et des entraîneurs, mais présentement, tous les espoirs sont permis, puis on peut être en mesure de croire que les Sénateurs pourront voler une des deux places d'équipe repêchée.
Il y a environ un mois et demi, il y avait la grosse controverse avec les Sénateurs, évidemment. Ils étaient à Québec, conférence à Québec, puis en lien avec l'histoire du chandail à moitié nordique, moitié sénateur. Tu as eu la chance de parler avec le propriétaire de l'équipe, Michael Andlauer. Qu'est-ce que tu as suscité de cette conversation-là que tu as eue avec lui?
C'est assez spécial quand même parce que je sais que ça se passe pas comme ça, surtout pas dans les marchés canadiens où est-ce que 7, 8, 9, 10 journalistes sont invités avant de rencontre contre les Capitals de Washington dans une petite pièce pour pouvoir s'asseoir pendant un bon 45 minutes. Oui, il y a des choses qui se sont dites on record, d'autres off record aussi, mais on a eu la chance de jaser avec le propriétaire des Sénateurs. C'est pas un exercice qui est commun dans le monde du sport, surtout pas dans le monde du hockey comme je l'ai mentionné. Donc c'était quand même quelque chose qui était assez spécial. Il voulait se rapprocher un peu de la presse. Assurément qu'il y avait un côté aussi de relations publiques, de vouloir diffuser un certain message après tout le tollé que ça a fait à Québec et à Ottawa. Les gens ont des grandes cicatrices, n'étaient pas au courant un peu de toutes les cicatrices qu'il y a eu au fil du temps. Où est-ce qu'on pensait que les Sénateurs allaient déménager à Québec? Mais vraiment, Michael Andlauer a promis et a été convaincant en disant il n'y a aucune chance que l'équipe déménage sous mon règne. C'est vraiment mon plan, c'est de les amener au centre-ville. Sinon, on va rester à Canada et ça va être. Il n'y a aucune autre option. Puis continue à vouloir être impliqué un peu plus du côté francophone aussi à Gatineau. Donc, il fait des bons mouvements pour cette organisation-là. On sent un certain vent de changement. C'est long à changer. C'est un peu comme un bateau de croisière. Tu peux pas tourner ça sur un dissous, mais tranquillement, pas vite, on sent un certain virage dans cette organisation-là qui est positif présentement. On le ressent autant dans l'aréna, autant dans la ville présentement. Donc, ce n'est que du positif, mais c'est certain que ça fait pas mal jaser cette histoire-là à Québec. Mais je pense qu'au final, tout le monde a appris de cette histoire-là, puis on n'en reparlera plus là, dans quelques semaines à peine.
Zach, fantastique ton intervention ce matin dans le forum ici même à BPM Sport. J'ai dit pour la toute première fois, je peux te garantir que ce ne serait pas la dernière. J'espère que tu pourrais être assez régulier avec nous à chaque fois qu'on va parler des Sénateurs.
Ça va me faire un grand plaisir, Tony.
Merci beaucoup, Zachary. Merci du journal Le Droit.